on a déjà un premier éclairage sur ce qui se passe à l'heure actuelle, cinq conditions pour ce Landgraben. Notre collègue Abdou Sow de l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal a fait le voyage pour nous présenter quelque chose qui va permettre de mettre en rapport l'héritage colonial et les situations concrètes qui se passent à l'heure actuelle dans son pays.
Merci. Je vais essayer de résumer, ramasser. Ça, si éventuellement il y a des questions, parce qu'en 5 minutes, on ne peut pas exposer les conditions. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le problème, cette question n'est pas un phénomène nouveau. Nous l'avons connu depuis le système colonial. Et quand les Européens et les Français sont arrivés dans le pays, la première mesure qui a été prise par le gouverneur fédéral, que tout le monde connaît certainement, 1854, c'est de déclarer les terres du Sénégal sans maître. Alors qu'il y avait des populations qui étaient là et qui avaient un régime foncier traditionnel. Mais peut-être qu'après avoir pris son petit déjeuner, il a regardé les terres et dit « les terres n'ont pas de maître ». Donc, c'est la base même de tout ce qui va régir la question foncière au Sénégal jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'entre 2000 et 2012, ce que nous avons vu comme accaparement et expropriation, on ne l'a pas vu du système colonial à 2000. On n'a jamais vu ça. J'ai expliqué tout à l'heure. Il y a plusieurs facteurs. Alors, pour aller vite, une fois que l'État colonial a décidé que les terres sont sans maître, ils prennent des mesures, plusieurs décrets. En 1902, 1905, etc., 1925, 1930, pour passer du statut traditionnel à l'immatriculation des terres. Mais puisque nous sommes de tradition orale, quand vous nous demandez d'immatriculer, c'est tellement compliqué pour nous que les populations qui n'ont pas été à l'école ne connaissent pas la valeur de l'immatriculation. Nous, ce que nous connaissons à l'époque, c'est la valeur de la parole. Et le maître des terres négocie avec les gens à partir de la parole. Une fois qu'il donne la parole, vous donnez le symbole qu'on appelle la cola, c'est fini. Vous allez exploiter la terre. Mais personne n'est propriétaire de la terre, elle est collective. Alors donc, ce que le système colonial a fait, ils ont fait la juxtaposition du système traditionnel avec un système français. Mais le système français n'est applicable que par les fonctionnaires de l'État qui sont dans les deux grandes villes, Dakar et Saint-Louis. Tout le reste du Sénégal ne connaissait pas l'immatriculation. Mais il y avait les deux systèmes qui fonctionnaient. Alors, c'est cette gestion chaotique qu'on a léguée au Sénégal indépendant. Mais en tout temps, les populations là-bas qui avaient leur gestion traditionnelle ont apporté des réponses locales. Parce que ce régime français a négligé les réalités sociologiques africaines. Parce que ce système foncier a ignoré la conception des populations de leurs droits. Parce que aussi, ils ont oublié les difficultés à concilier le régime coutumier et le régime colonial. Les populations locales n'ont pas adhéré. Donc le système n'a pas pu fonctionner. Donc juste après ces deux systèmes, gestion chaotique. Et en 1960, nous avons hérité de ce système. Qu'est-ce qui se passe? En 59, la loi Calbesson de Fer nous donne l'autonomie en 57. En 59, donc 57, on a un gouvernement sénégalais, dirigé par un gouverneur français, le vice-président est au Sénégal, les ministres sont des Sénégalais, et nous avons des plans de développement. On veut maintenant faire des plans de développement, il faut la terre. Et c'est le lac de guerre, le fleuve Sénégal, que vous connaissez. On va faire des travaux, on vient autour des populations qui sont le long des deux rives. On dit, on veut faire des aménagements. Vous allez déguerpir. Les gens le disent, on ne déguerpit pas. Ici, ce sont nos ancêtres et on a enterré nos morts. Donc, on a utilisé la force, on les a fait déguerpir, mais ils ont réclamé des indemnisations. Et rien n'était prévu pour ça. C'est en ce moment qu'on a pensé faire des réformes. Donc, réforme de 64, réforme de 76, et la réforme dernière, c'est la réforme de 2011 qui supprime, si vous voulez, le titre foncier privé qui n'est plus inattaquable. Donc, on donne les instruments à l'État. Les textes juridiques permettent à l'État maintenant de nationaliser 95% du territoire, devient un domaine national qui appartient à l'État. L'État est le seul propriétaire qui immatricule. Alors que les gens ont toujours le régime traditionnel qui fonctionne. Et cette contradiction qu'on a connue dans le système colonial, on va le connaître à l'indépendance. Et nous verrons tout à l'heure, dans les accaparements qui vont se passer, comment on va accaparer les terres, certainement, et les conséquences surtout. Nous passons, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tout cela. Mais résumons simplement que nous avons un conflit depuis le système colonial que les Sénégalais qui ont pris le pouvoir ont utilisé contre la population se sont accaparés les terres, parce que la loi du domaine national de 1964 dit que le domaine national appartient à l'État. 95% des terres, ça veut dire qu'on a retiré le pouvoir au laman, c'est-à-dire au chef maître des terres, qui suit les terres. L'État le retire ce pouvoir. Mais l'État n'est pas partout présent dans le pays. Il y a des régions où le marabout dit, ici, il n'y a pas d'école française, il n'y aura pas d'école. Il y a des régions où on dit, le marabout dit, ici, il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas d'investissement. Et nous le verrons tout à l'heure, les soulèvements et les guerres, il y aura même une guerre à Casamance à cause des problèmes de terre et j'y reviendrai. Je crois que j'ai ramassé assez. Je vous donne.
Merci à vous. Merci.